toutes et à tous. Vous écoutez Radio Campus Amiens. Aujourd'hui, les élèves de 4e 2 du collège Millevoye à Huile prennent le contrôle de l'antenne. Je m'appelle Maël et je serai l'un de vos animateurs du jour. Au programme, sur le DAB+, sur le 87.7 FM et sur radiocampusamiens.fr, une émission spéciale sport.
En effet, nous allons vous présenter nos centres d'intérêt et nos pratiques sportives préférées. Trois disciplines seront principalement abordées. Les sports de combat et notamment le judo, les sports collectifs avec le football et le basket, et enfin, différentes disciplines de l'athlétisme.
On commence justement avec le premier sujet, consacré à l'histoire de l'athlétisme.
Bonjour, nous sommes Arthur et Luc, nous allons vous présenter l'athlétisme, un sport que nous pratiquons.
L'athlétisme est un sport très complet, elle a été créée en 776 avant Jésus-Christ.
Mais à l'époque, une seule épreuve au programme.
Il s'agissait d'une course de 200 mètres.
Elle se déroulait au Dromos, au Stadium, qui signifie stade. Maintenant, il existe plusieurs épreuves, comme la plus répandue, la course, divisée en sous-catégories comme le sprint, le demi-fond, la course de haie ou encore le relais.
Mais il y a aussi la marche, le saut à la perche ou en longueur, le lancer, les épreuves combinées comme le pentathlon et le décathlon.
Le décathlon vient du mot déca qui signifie 10 car il y a 10 épreuves.
Le 100 mètres, le saut en longueur, lancer de poids, saut en hauteur et 400 mètres le premier jour. Puis 110 mètres et lancer de disque, soit la perche, lancer de javelot et 1500 mètres pour finir le deuxième jour.
Kevin Meyer est un grand champion français de décathlon. Il a été double champion du monde de décathlon, titre remporté à Londres en 2017 et à Eugene en 2022. Et champion du monde en salle de l'heptathlon, titre remporté à Birmingham en 2018. Il remporte la médaille d'argent du décathlon lors des Jeux Olympiques de 2016 à Rio de Janeiro, ainsi que lors des Jeux Olympiques de 2020.
Ceux qui font des décathlons sont les décathloniens. Nous avons choisi de parler de ce sujet car nous pratiquons tous les deux. C'est un sport que nous apprécions. Nous aimons la polyvalence de ce sport. Chaque muscle est travaillé.
C'est déjà la fin de cette chronique. Merci de nous avoir écoutés.
Merci Arthur et Luc pour cette chronique. On enchaîne avec le sujet de Gabriel, Hugo et Luisan. Ils vont nous présenter le triathlon.
Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir. Nous sommes un groupe de 3 élèves en 4e au collège Millevoye à Abbeville qui va vous parler d'une discipline qui va être aux Jeux Olympiques 2024. Le triathlon comporte 3 sports, la natation, le vélo et la course à pied. Les distances olympiques sont 1,5 km pour la natation, 40 km pour le vélo et 10 km pour la course à pied. Les triathlètes professionnels commencent souvent la journée par 1 à 2 heures de natation, ensuite du renforcement musculaire, un bon déjeuner, une sortie d'environ 80 km de vélo et un entraînement de course à pied pour bien finir la journée.
Maintenant, on va vous présenter certains champions de ces différentes catégories. Moi, je vais vous parler de la natation en triathlon. Elle se passe en eau libre. Une partie de natation peut être annulée à partir de 14 degrés. La combinaison néoprène devient obligatoire de 14 à 16 degrés. Au-dessus de 16 degrés, elle devient recommandée. Je vais maintenant vous parler de Léon Marchand, un athlète français. Il est né le 17 mai 2002 à Toulouse. Il est spécialiste des épreuves de catenage, de brasse et de papillon. Le jeune de 22 ans détient depuis 2022 les records de France de 200 mètres catenage, 200 mètres papillon et 200 mètres brasse. En 2022, il devient champion du monde et recordman d'Europe du 400 mètres catenage. Il s'entraîne au Sun Devils d'Arizona State.
Moi, je vais vous parler de la partie vélo qui est la partie la plus importante du triathlon car c'est là qu'on peut perdre ou gagner le plus de temps selon où nous sommes placés dans la course. Je vais vous parler d'un cycliste qui s'appelle Tadej Pogacar et qui a remporté 2 fois le Tour de France et qui a 55 victoires à son actif. Et pour finir, je vais vous parler du matériel qui est très important, notamment le vélo et les habits. Pour avoir un matériel de bonne qualité, il vous faudra débourser 15 000 euros.
Moi c'est Louison, je vais vous parler de la course à pied. Je vais vous parler de ce sport car j'adore la course de fond comme Kelvin Kiptum, qui est malheureusement mort dans un accident de voiture à l'âge de 25 ans. Kelvin Kiptum est né le 2 décembre 1999 à Eldoret. Il est spécialisé pour des courses de fond. Il détient le record du monde de marathon en 2h35 secondes. Il a fait ce record grâce à des chaussures en carbone. Je vais vous parler ensuite de son palmarès. À Valence, il a fini premier en 2h01 minute et 53 secondes. À Londres, il a fini premier en 2h01 minute et 25 secondes. Et à Chicago, il a fini premier en 2h35 secondes. Voilà, c'est la fin de notre chronique. Merci de nous avoir écoutés.
Merci les gars pour cette chronique. On passe au premier sujet foot avec l'interview des jeunes joueurs Yanis et Louison. Un sujet réalisé par Zoé et Colline.
Bonjour, aujourd'hui on se retrouve sur Radio Campus Amiens. C'est un jour particulier car nous allons interviewer deux jeunes footballeurs, Louison et Yanis.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Nous avons voulu parler du foot car c'est le sport le plus populaire de France et le plus joué en général. C'est un sport collectif, il y a beaucoup d'émotions et de fierté. Les supporters encouragent les joueurs et c'est ceux qui donnent envie de le gagner.
Dans quel club jouez-vous ?
Je joue au club de Saint-Riquet.
Moi je joue au club du CA à Bille.
Combien de temps y consacrez-vous ?
J'y consacre à peu près entre 7 et 8 heures par semaine.
Moi aussi, j'y consacre 7-8 heures par semaine, pareil.
Quels sont vos jours d'entraînement ?
Moi, c'est le mardi et le vendredi.
Moi, c'est le lundi et jeudi.
Dans quelle catégorie jouez-vous ?
Je joue dans la catégorie des U15.
Moi, je joue en U14.
À quelle heure sont vos entraînements ?
Mes entraînements sont à 18h15.
Moi, c'est entre 17h30 et 19h ou 18h et 20h.
Depuis combien de temps jouez-vous ?
J'y joue à peu près depuis 6 ans, peut-être.
Moi, j'y joue depuis 10 ans ou 8 ans, 8-10 ans à peu près.
Quel poste jouez-vous sur le terrain ?
Je joue au poste de défenseur central numéro 4.
Moi, je joue latéral. Je dois pas faire passer le joueur, en gros.
À quoi correspondent vos rôles sur le terrain ?
Moi, mon rôle, il consiste à défendre le gardien, pas laisser tirer l'adversaire et pas le laisser passer.
Moi, c'est un peu pareil, sauf que je suis pas dans l'axe, je suis sur un côté. Donc, le joueur qui est sur mon côté, faut pas que je le laisse partir tout seul.
Qu'est-ce qui vous plaît dans le foot ?
Ce qui me plaît dans le foot, c'est l'ambiance, le collectif.
Moi, c'est toucher un ballon. C'est, pour moi, le ballon, c'est tout pour moi. Pour moi, je suis née avec un ballon.
Est-ce que vous stressez avant de commencer un match ?
Alors moi, oui, je stresse parce que j'ai peur de perdre. Enfin, pas envie de perdre.
Moi, j'ai pas forcément de stress, mais ça dépend quel match je joue. Si c'est un gros match, oui. Si c'est un petit match, pas forcément.
En feriez-vous un métier ?
Alors moi, non, je ferais pas un métier parce que j'ai déjà un autre métier en tête. C'est travailler dans la mécanique, moto ou voiture.
Moi, ça dépend. Si je me donne les moyens, oui. Mais sinon, non, j'ai un autre métier en tête. C'est de faire cuisinier.
Quel est votre club préféré ?
Mon club préféré, c'est Paris Saint-Germain.
Moi, mon club préféré, c'est Marseille.
Quel est votre joueur préféré ?
Mon joueur préféré, c'est Zaïre Emery. Warren.
Pas forcément, j'ai pas trop de joueurs préférés, mais celui que je préfère le plus, c'est Ronaldo. Hein. Mais bon, je sais pas.
Moi, je préfère avoir Zaïre Emery parce que il a un bon toucher de balle, il a une bonne conduite et puis il gère bien ses dribbles.
Moi, Ronaldo, parce que à 38 ans, il a encore un bon physique, il s'entraîne tous les jours quand il est né, il n'était pas forcément riche, il était un peu dans la pauvreté, il devait nettoyer les rues, donc pour moi c'est une bonne initiative.
Merci d'être venu et au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Merci les filles pour cette super interview.
Pour le second sujet foot, Amaël, Lana, Chloé, Lilou et Grégoire ont souhaité interviewer Romain Cochon, arbitre de foot amateur dans le département de la Somme.
Bonjour, on est avec Lana,
Amaël et
Chloé de la 4e 2. Aujourd'hui, nous allons parler du foot. Le foot est un sport très répandu et populaire.
Ce sport est collectif, il se joue en équipe de 11. Nous avons choisi ce sujet car nous connaissons plusieurs personnes qui sont dans le monde du foot. On vous laisse avec les questions.
Bonjour, merci d'être venu aujourd'hui.
De rien, c'est avec grand plaisir.
Quel est votre parcours dans le foot ?
Alors, j'ai commencé le football à 19 ans, très tard. J'ai joué pendant une quinzaine d'années et suite à diverses blessures, je suis passé de l'autre côté, je suis devenu arbitre amateur.
Est-ce que c'est fréquent de se blesser quand on joue ?
Alors oui et non, on va dire, parce qu'il y a certains joueurs qui, je pense, ont une condition physique meilleure que d'autres et c'est simplement ça qui fait que certains joueurs se blessent et d'autres non.
Quel était votre poste dans le foot ?
J'ai été gardien de football, gardien de but, ouais.
Et quel est votre rôle ?
Alors le gardien, c'est le dernier défenseur, on va dire. C'est lui qui est le dernier rempart devant le but. Alors, un bon gardien, c'est en lien avec une bonne équipe, forcément. S'il y a une bonne équipe, il y aura un bon gardien. Mais il faut être présent à des moments bien stratégiques, c'est surtout ça.
Quel moment ?
Surtout sur des. Quand on peut voir à la télé, les gardiens ils sont réactifs sur des phases de jeu bien précises, des attaques bien placées. Il faut qu'ils soient présents 3, 4 fois, 5 fois dans un match. On va pas les voir non plus pendant 10 ou 15 fois. Quoi.
C'est quoi une phase de jeu ?
Une phase de jeu, c'est le ballon circule entre les différents joueurs. Et selon la stratégie mise en place, en fait, le ballon arrive devant le but. Et là, faut que le gardien soit présent, tout simplement.
Combien coûte l'équipement ?
Alors, on va parler d'équipement plutôt arbitre ou plutôt joueur ?
Les deux.
Les deux ? Alors, joueur, à part une paire de chaussures de football et des protèges tibias, le reste, c'est fourni directement par le club. Tandis que les arbitres, moi je sais que de mon côté, en fait, j'ai une participation de mon club et j'achète mes équipements tout seul. En gros, un équipement complet d'arbitre, chaussures, chaussettes, shorts, maillots, il faut compter entre 350 et 400 euros.
D'accord. Avez-vous connu des changements réglementaires ?
Oui, beaucoup. Tous les ans, en fait, en tant qu'arbitre, on est auditionné, on a une formation. Les règlements de football changent tous les ans. Ça, personne ne sait, mais ça va être les changements sur les fautes de main, ça va être le changement sur les coups de pied arrêtés. Alors, coup de pied arrêté, le ballon est une faute, le ballon est arrêté à un endroit, et la reprise du jeu peut être différente selon si c'est une main, selon si c'est un tirage de maillot ou des choses comme ça. Donc oui, il faut être assidu au règlement.
Vous avez un exemple d'un changement qui vous a marqué ?
Oui, tout simplement, quand on fait une remise en touche, donc une touche. Avant, un joueur pouvait se mettre en position verticale devant, directement devant lui. Aujourd'hui, la distance réglementaire, elle est de 2 mètres. Avant, il n'y avait pas cette réglementation-là. Ça n'existait pas.
Quelle a été votre pire situation lors d'un match ?
Alors, en 9 ans de temps, je dirais que j'ai eu deux situations qui ont été compliquées. Une en tant qu'arbitre assistant, donc j'étais pas ce qu'on appelle arbitre central, celui que vous voyez au milieu du terrain, mais j'étais sur une touche. Où là, en fait, un pénalty est sifflé. On vient me voir pour me demander si la faute est dans la surface ou hors de la surface. Selon mon positionnement, moi, le ballon était à l'intérieur. Mais tout compte fait, à l'opposé de la zone, moi, je pouvais pas le voir, le ballon était à l'extérieur. Donc du coup, forcément... Les joueurs s'en rendent compte vite, très rapidement. Et du coup, ça monte un peu en pression. Et la deuxième situation, ça a été il y a à peu près 3 semaines. Je m'en vais arbitrer donc, dans le Santerre, donc quand même à quasiment 100 km d'ici. Et une situation où c'était un match retour. Donc le match aller s'était très très mal passé, avec des situations au tribunal et tout ça. Et donc le match retour, moi, n'étant pas au courant de tout ça, j'ai commencé à faire mon match. J'ai commencé à garder la même politique que j'ai quand j'arbitre tous les dimanches. Et ça a fini avec 12 cartons jaunes et 3 cartons rouges.
Comment vous faites pour gérer ce genre de situation ?
Il faut rester calme, très calme. Il faut rester, même en étant énervé, parce qu'intérieurement on l'est forcément, il faut rester courtois, il faut rester poli. Et il faut surtout arriver à avoir un tempérament supérieur aux joueurs. Il faut que mentalement on soit mieux préparé, bien préparé pour pouvoir éviter le débordement complet, quoi. Ce qui m'est jamais arrivé.
L'arbitrage est-il un passe-temps ou votre profession ?
Non, c'est un passe-temps. Non, c'est purement amateur. Je pense que pour vous, les jeunes, je pense que c'est une bonne école de vie. C'est quelque chose qui peut être intéressant pour se construire aussi. Ça ramène des valeurs, ça ramène de l'autorité, ça ramène aussi un dépassement de soi aussi. Donc je pense que non, c'est. Je resterai amateur parce que j'ai plus l'âge pour devenir professionnel, mais vous, en tant que jeune, vous pouvez devenir arbitre professionnel et même féminine.
Dans quel club célèbre aimeriez-vous arbitrer et pourquoi ?
Je suis supporter du Paris Saint-Germain, donc j'aimerais bien arbitrer un jour le Paris Saint-Germain. Mais je pense que ça serait un rêve, peut-être, un jour. Mais j'ai des situations où j'ai des collègues qui étaient dans les tribunes à l'Amiens SC où l'arbitre assistant s'est blessé et que ben il n'y avait pas de quatrième arbitre et qu'ils sont arrivés sur un match professionnel alors qu'ils étaient arbitres amateurs.
Quel a été votre meilleur souvenir en tant qu'arbitre ?
Le meilleur souvenir, je dirais, en fait, il y a ce qu'on appelle nous la CAS, la Commission des arbitres de la Somme. Et en fait, il y a un classement qui est fait tous les ans. Et selon ce classement-là, en fait, on monte ou on descend au niveau des divisions d'arbitrage. Et tous les ans, il y a aussi des coupes, donc les coupes de la Somme, les coupes des sous-districts, des divers sous-districts. Et j'ai eu la chance de pouvoir arbitrer une fois une finale. Et je pense que ça restera un moment important parce que même en étant arbitre amateur, c'est toujours intéressant de pouvoir arbitrer une finale.
Avez-vous déjà été blessé en jouant ?
En jouant, oui, beaucoup. Les genoux, les chevilles, le dos. Après, en tant qu'arbitre, oui, ça m'est déjà arrivé aussi. Je me souviens, il y a quelques années, une grosse douleur qui est sortie au niveau du dos et une hernie discale de sortie alors qu'on était simplement en train de courir, quoi. Donc oui, on peut se blesser. S'il n'y a pas d'entraînement, forcément, il y a des blessures.
Quelle est votre préparation physique ?
Je dirais qu'il faut avoir un petit peu de temps quand même pour courir la semaine. Je dirais une fois ou deux dans la semaine. Après, en sachant que le dimanche, quand on arbitre, en général, on fait une douzaine de kilomètres par match. Donc ça reste quand même déjà une bonne activité, on va dire. Et il faut savoir qu'il faut qu'on ait quand même une bonne condition physique, car tous les ans, on a un examen physique pour nous permettre de pouvoir être promu sur les divisions au-dessus pour pouvoir arbitrer. Donc même à 42 ans, je continue à avoir une préparation physique pour pouvoir arbitrer.
Pourquoi avez-vous choisi d'être arbitre ?
Alors j'ai choisi d'être arbitre tout simplement parce que après plusieurs blessures en tant que joueur, j'avais pas envie de quitter le monde du football. Donc à l'époque j'étais vice-président du club et le président qui est un très bon copain, il m'a dit Romain, il y a un stage de formation d'arbitre au mois d'octobre, est-ce que tu veux y aller ? Je dis ouais, on va essayer, on n'a pas d'arbitre dans le club donc autant en profiter. Et j'ai fini major de ma promo et donc du coup directement ça m'a lancé pour pouvoir continuer à essayer de progresser le plus possible, quoi.
Comment fonctionne le milieu de l'arbitrage dans la Somme ?
Alors au niveau du district de la Somme, en fait il y a 6 divisions, donc de la D1 à la D6. En sachant que en D1 il y a 2 groupes, en D2 il y a peut-être 3 ou 4 groupes, et plus on descend dans les divisions, plus il y a forcément de groupes. En sachant aussi que dans tous les matchs de D1 qu'on peut avoir le week-end, il y a forcément 3 arbitres officiels et un délégué officiel qui vient du district. Quand on descend dans les divisions, moi je suis arbitre D2, on n'a plus que 2 arbitres officiels. On a le central et ce qu'on appelle nous entre guillemets un touchard qui lui sera sur le côté banc pour la protection des joueurs, la protection des entraîneurs. Et en face, il y aura un arbitre qui a été lui formé par le district mais qui est un arbitre amateur, un arbitre bénévole. Après, quand on descend encore dans les divisions, on n'a plus qu'un seul arbitre et quand on arrive par exemple dans les divisions D4, là il n'y a plus d'arbitre du tout. Donc c'est des situations de match un peu plus compliquées à gérer pour les bénévoles aussi, parce que c'est des bénévoles qui arbitrent à ce moment-là.
Est-ce que vous avez un message à faire passer pour les jeunes joueurs ou les jeunes joueuses ?
Alors oui, le message ça serait plutôt de garder en tête que le sport est un loisir, que tout sport est un loisir, que donc le football en fait partie forcément, que si on a la chance de pouvoir devenir un grand joueur, un Mbappé, un Neymar, un Messi, oui, c'est bien, mais il ne faut pas se projeter dès le début en se disant « je vais devenir un Neymar, un Mbappé ou un Messi ». Il faut rester tout simplement à sa place, progresser, et pourquoi pas basculer très tôt déjà dans le côté arbitre, dans tous les sports. J'ai des collègues arbitres qui ont des jeunes enfants qui ont 13-14 ans, donc à peu près votre âge, et ils sont déjà arbitres depuis 2 ans. Et donc il y a une session de lycée au lycée Tulier à Amiens qui forme des arbitres. Donc au moins arbitres de football. Je ne sais pas s'il y a des autres sports, mais. Donc oui, je pense que le sport en général ramène des valeurs. Et je pense que ces valeurs-là sont importantes. Voilà.
Au revoir et merci d'être venu.
Bah, merci à vous de m'avoir accueilli.
Merci pour cette interview passionnante. On enchaîne avec un sujet basket. À vous les filles.
Le basket.
Bonjour, nous sommes
Lilou,
Claudiana
et Constance.
Aujourd'hui, nous allons vous parler du basket.
Commençons.
Ce jeu de balle était pratiqué il y a 2000 ans avant Jésus-Christ dans la région de Yucatan au Mexique. Il était pratiqué aussi au Canada. Ce sport est extrêmement populaire aux États-Unis. Le premier championnat lycéen est créé dans le Colorado en 1896.
En 1898, la première ligne professionnelle formée de 6 équipes voit le jour dans le New Jersey. Le premier match international a eu lieu en 1909 entre le Wishenmayak Sport Club et une sélection YLCA à Saint-Pétersbourg.
En 1936, le basket fait son entrée officiellement au JO de Berlin. James Naismith donne le coup d'envoi du premier match qui oppose la France à l'Estonie. 22 pays sont représentés.
Les États-Unis gagnent contre le Canada 19-8. Un certain William Chose marque l'unique panier de la première rencontre. Pour avoir le plus de réussite dans tes tirs, il faut que la trajectoire de ton shoot se rapproche de cercle de l'arc de cercle. Le basketball est un sport collectif qui oppose deux équipes de 5 joueurs sur le terrain. Quel est l'objectif ?
Faire passer un ballon à travers d'un arceau fixé à 3,5 mètres du sol pour marquer des paniers. Les points attribués varient en fonction de la distance du tir. Le but du basket, c'est de mettre le ballon dans le panier.
Merci de nous avoir écoutés.
Et on vous souhaite une bonne journée. À bientôt.
À bientôt.
Merci pour cette chronique. On passe à la dernière rubrique de cette émission, consacré au sport de combat. Dans un premier temps, Emma, Léa, Maëlle et Mathis vont nous présenter le MMA.
Bonjour, bienvenue sur Radio Campus, je m'appelle Maëlle, aujourd'hui on va vous parler du MMA. Je passe la parole à Mathis.
Le MMA est un mix martial, art, c'est un sport qui réunit plusieurs activités comme la lutte, le kickboxing, le jiu-jitsu. Il existe différentes ligues telles que l'UFC, le PFL ou encore le Bellator. C'est un sport qui est très violent mais il faut avoir le mental et le corps pour faire du MMA. Après vous avoir présenté les MMA, nous allons vous présenter les grands combattants du MMA.
Cédric Doumbé est né à Soyla le 30 août 1992. Il appartient à la catégorie des poids mi-moyens. Sa taille est de 1m77, son poids de 77 kg. Il a 31 ans, son salaire est de 200 000 euros. Sa spécialité est le kickboxing.
C'est à moi et je vais vous présenter Chimaev. Chimaev fait 1m88 et pèse 80 kg. Il est d'origine tchétchène, sa principale manière de combattre est la lutte. Son meilleur et grand combat est celui contre le champion Conor McGregor. Chimaev est un grand nom du MMA, mais à cause de sa maladie, il est de moins en moins fort et précis qu'avant.
Baki est un boxeur qui pratique le MMA. Le premier sport qu'il a pratiqué est le judo. Baki a 22 ans, il fait 1m78 pour 77 kg. Il est dans la catégorie des poids moyens. Sa manière de combattre, c'est d'utiliser la lutte. En tout, il a remporté 10 combats. Un grand combat a eu lieu entre Baki et Doumbé. C'est Baki qui a gagné ce combat.
C'est déjà la fin de notre chronique. Merci de nous avoir écoutés.
Merci pour cette présentation. On continue la rubrique sport de combat avec un sujet autour de l'histoire du judo. À la fin de cette chronique, vous pourrez découvrir le parcours de Nicolas Prudhomme, coach de judo à Abbeville. Ce sujet est réalisé par Jean, Jade et Nathanaël.
Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler du judo et de son histoire. Le judo a été créé en 1882 par Jigoro Kano, au Japon, inspiré du jujitsu qui lui est l'ancêtre du judo. En revanche, les bases et les principes de ce sport viennent des samouraïs, comme le salut. On pratique ce sport dans un dojo.
La tenue est composée d'un pantalon, d'une veste et d'une ceinture. L'ensemble se nomme judogi. En Europe, il y a des ceintures de couleur qui représentent notre niveau technique. Mais ce n'est pas le cas du Japon, où il n'existe seulement trois couleurs de ceinture. La blanche, la marron et la noire. Et également d'autres pour les hauts gradés, comme la blanche rouge et la rouge.
Le judo a des valeurs très importantes qu'on retrouve dans le code moral, comme le respect, la modestie, le courage, le contrôle de soi et la politesse. Le Gokyo est l'ensemble des 40 techniques debout. Selon le Gokyo, il y a 40 techniques réparties en 5 groupes de 8. Les techniques au sol sont quant à elles séparées en 3 sous-parties, les immobilisations, les étranglements et les clés. Les immobilisations doivent être effectuées dès que l'adversaire se trouve au sol, allongé sur le dos et avec les deux épaules qui touchent le tatami.
Il y a deux grandes valeurs pour gagner un combat. Ippon, ce qui arrête directement le combat quand l'adversaire est sur les deux épaules et sur le dos. Et Wazari, ce qui équivaut à un Ippon s'il y en a deux lorsqu'on tombe sur une épaule. Mais il y a également des plus petites valeurs, les Kinza. On peut en avoir énormément sans que le combat ne s'arrête avant le temps imparti. Il y a également des pénalités, les Shido, et si on en a 3, on perd le combat sur Hansoku Make.
Aujourd'hui, il y a environ 10 millions de personnes qui pratiquent le judo dans le monde. Pour beaucoup de personnes, le judo est plus qu'un sport, une passion, ce qui incite donc beaucoup de personnes à aller dans les structures de haut niveau, comme les Pôles Espoir, les Pôles France et le rêve de beaucoup de gens, l'INSEP, ce qui permet de faire des compétitions de haut niveau telles que les Jeux Olympiques. Le judo y a été intégré en 1972.
Et voilà, c'est déjà terminé. On espère que ce reportage sur le judo vous a plu, mais ne partez pas, car ce n'est pas fini. Il y a encore une interview qui vous attend.
Aujourd'hui, nous avons la chance d'interviewer Nicolas Prudhomme, qui va répondre à nos questions. Pour commencer, peux-tu te présenter ?
Donc, bonjour, je m'appelle Nicolas Prudhomme. Je suis judoka depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Donc, j'ai été athlète de haut niveau et maintenant, je suis enseignant et cadre départemental.
Quel est ton métier dans le judo ?
Quel est mon métier ? En gros, je suis enseignant, donc j'enseigne pour les plus petits, donc 3-5 ans, jusqu'à des adultes de plus de 18 ans, voire même plus vieux. Et je suis aussi responsable, donc cadre d'équipe départementale de la Somme pour les minimes. Donc minimes, c'est à peu près pour vous, ça serait 4e, 5e.
Quel est votre parcours dans la compétition de judo ?
Donc mon parcours, donc j'ai commencé comme je vous ai dit très jeune. J'ai été plusieurs fois champion de département, donc j'ai fait plusieurs départements, j'ai fait la Seine-Maritime et la Somme, donc plusieurs fois champion de département, du département de la Somme et de la Seine-Maritime, plusieurs fois champion de région dans Normandie et de la Somme et de la Picardie, même Hauts-de-France maintenant. Et ensuite, à partir de cadet, c'est là où j'ai un petit peu explosé au niveau de mon niveau compétiteur. Donc j'ai fait médaille de bronze au championnat de France cadet en 2012. J'ai fait ensuite plusieurs médailles sur les tournois internationaux comme Metz, Nantes. J'ai participé une quinzaine de fois au championnat de France. J'ai une médaille de vice-champion de France universitaire. Et comment une place de 5 là sur mes dernières compétitions par équipe au championnat de France 2e division équipe senior. Et plusieurs médailles sur des tournois nationaux et internationaux. Donc j'ai une carrière assez remplie et là au bout de, on va dire, 18 ans, je raccrochais le kimono pour passer le relais et le flambeau aux petits jeunes et passer derrière la, plus sur le tapis mais derrière la chaise de coach.
À côté de cela, as-tu un autre métier ?
Oui, j'ai un métier à côté. Hein, je suis adjoint d'animation, donc je suis dans le pôle jeunesse de la collectivité de Abbeville. Je crée des événements, je suis sur les structures pour les ados et pour leurs vacances.
Et n'est-ce pas trop dur de gérer les deux ?
Non, au bout d'un moment, on s'y habitue. Au début, c'est un peu un rythme un peu soutenu entre le travail et à côté les entraînements tous les soirs, mais on s'y habitue, puis quand on a le rythme de vie, ça va tout seul. Hein. On est un peu fatigué à la fin de l'année, mais on arrive à gérer.
Depuis combien de temps enseignes-tu le judo ?
Maintenant, j'enseigne depuis approximativement 7 ans ou 8 ans. Donc j'ai commencé dans le club de Chepi et je continue encore à l'heure actuelle dans le club de Chepi. J'enseigne aussi au club d'Abbeville.
Quel diplôme a-t-on besoin pour devenir professeur de judo ?
Donc il y a plusieurs diplômes qu'on peut passer. On a le premier diplôme, c'est un CQP, par exemple c'est ce diplôme-là que j'ai. Ou ensuite il y a d'autres diplômes, donc BPGEPS, donc c'est un brevet d'État, ou DEGEPS, qui est un diplôme d'État. Et il y a toujours plusieurs grades de diplômes. Plus on passe un diplôme haut, plus on peut avoir des fonctions dans le judo qui est plus importante. Donc pour être enseignant de club, le minimum c'est un CQP.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer et enseigner le judo ?
Qu'est-ce qui m'a donné envie de pratiquer ? En gros, quand j'étais tout jeune, j'étais un peu hyperactif. Et on a proposé à mes parents de choisir un sport. Donc j'ai essayé plein de sports différents et naturellement, je me suis tourné vers le judo après une comment, après une période de judo à l'école. Donc il y avait un club, un enseignant d'Abbeville qui était venu dans les écoles pour pratiquer le judo. Et je ne sais pas, c'est venu naturellement, ça m'a plu. Tout en sachant que je ne savais pas à l'époque, donc j'avais 5-6 ans, je ne savais pas en fait que mon père et tous ses frères et sœurs, ils avaient fait du judo. Ils étaient ceinture noire, je ne savais pas du tout. Et je me suis lancé là-dedans. Et ça a accroché aussitôt. Et après l'enseignement, pourquoi j'en suis venu là, c'est que j'ai toujours eu cette fibre de vouloir... Donner aux jeunes qui étaient aux plus jeunes mon expérience et ma vision de faire du judo et toute cette partie technique et tactique.
Pour toi, quelle est la valeur la plus importante du code moral ?
La valeur la plus importante pour moi, c'est le respect. Parce que sans respect, aucune confiance peut naître. Et le plus important, c'est de respecter les lieux, le savoir-faire et de respecter les autres. Après, il y en a plein au niveau du code moral, des valeurs, et je pense que c'est un tout après. En tant que judoka, quand on vieillit, on assimile de plus en plus ces valeurs et sans le faire exprès, en fait, on les met dans la vie de tous les jours, entre le respect, la confiance, le contrôle de soi, toutes ces choses-là, en fait, on les fait à chaque fois.
Quel est le judoka qui t'inspire ou t'inspirait le plus ?
Donc le judoka qui m'inspire le plus, en fait, il n'y en a pas qu'un. C'est toute une école, je suis un peu de l'ancienne école, c'est l'école japonaise. Donc entre Shohei Ohno, avec son style plus sur tout ce qui est technique de jambes et hanches. Après, on va avoir du Koga avec les techniques d'épaule. Et tous ces personnes-là, un peu, m'ont servi un peu de modèle quand je devais chercher des petites astuces pour moi, pour créer tout ça, j'allais voir leurs petites vidéos de compétition. Et ils ont un judo très, très ouvert, très, très en sensation, et qui prépare beaucoup. Et en fait, ils vont pas aller attaquer énormément, on va dire, pas attaquer dans le vide. Et ils préparent beaucoup, tout est parfaitement maîtrisé. Et c'est un des styles de judo qui me permet de moi m'exprimer plus.
Que faut-il faire pour devenir champion ?
Que faut-il faire ? Bon, de la rigueur et jamais baisser les bras, toujours avoir de l'envie. Même on sait qu'au cours d'un parcours d'athlète, il y aura des hauts, des bas. On peut perdre, on peut gagner. Le but, c'est de se dépasser, même quand c'est dur, c'est d'essayer de franchir ses limites. On dit toujours qu'un sportif il va aller au bout des choses, et un compétiteur il va essayer de dépasser ses limites et d'aller encore plus loin. Et c'est surtout de l'envie et de la motivation, et baisser les bras.
Si tu voudrais donner envie à des jeunes de pratiquer le judo, que leur dirais-tu ?
Pour donner envie, je leur dirais d'essayer déjà. Et ça permet d'être un sacré défouloir, parce qu'entre la motricité, du physique, du cardio, de l'enseignement par la technique, il y a toute une partie qui peut être découverte par tout le monde. Et c'est un des sports où tout le monde peut avoir sa place. Ça permet aussi, on entend souvent ça, c'est que le judo, ça permet de recadrer. C'est pas vrai. Ça permet de se découvrir soi-même, je vais te dire. Donc on peut être... on a beaucoup de filières dans le judo, entre l'handisport, le paralympique, le sport adapté, toutes ces parties-là, en fait, ça permet de faire voir que le judo, en fait, on peut le pratiquer tous.
Selon toi, quelles sont les qualités principales que doit avoir un judoka pour gagner ?
Il faut qu'il ait la tête froide. C'est important de savoir gérer ses émotions, parce que pendant un combat, tout peut se passer. Donc celui qui va rester le plus calme et puis il va réussir à rester concentré sur ses objectifs va permettre de reprendre l'initiative, même s'il est mené ou quoi que ce soit. Et donc les trois grandes caractéristiques, c'est l'intelligence de combat, gérer ses émotions et jamais oublier son plan de combat selon les adversaires, parce que sur chaque adversaire, chaque combat est différent, donc il faut s'adapter. Savoir s'adapter, c'est super important aussi.
Lors d'une compétition, quel est ton rôle ?
Lors d'une compétition, donc tout dépend de la compétition. Quand j'organise la compétition de Chopi ou Abbeville, je suis un peu derrière tout ce mouvement, je suis là pour organiser. Et tout le reste de l'année, moi maintenant je combats plus, mais je suis coach pour ces clubs-là. Et mon but, c'est d'accompagner les athlètes le plus possible et de leur permettre d'aller chercher des médailles et de pouvoir aller jusqu'au bout de leurs objectifs et puis de les emmener au plus haut.
Apprend-on à coacher ou cela vient naturellement ?
Est-ce qu'on apprend à coacher ? C'est compliqué. Parce que en gros, il y a certains athlètes qui sont très forts et qui passent derrière de ce côté-là du coaching. Et ils vont avoir énormément de mal à coacher parce que ça ne s'apprend pas. En fait, c'est le coaching, on peut coacher, on peut être le meilleur coach. Et puis sur certains athlètes, on n'y arrivera pas du tout. En fait, c'est un peu un lien entre l'athlète et son coach. S'il n'y a pas de, en gros, cette petite, ce petit lien entre les deux, ça ne marche pas. Le coaching, je pense que c'est une vocation. C'est un truc qu'on a. Et c'est surtout le lien. Si on arrive à faire confiance à son athlète et son athlète a confiance en son coach, c'est là où le coaching il est le plus fort. Après, est-ce que ça s'apprend ? Je peux pas te dire. Moi, c'est venu comme ça. Et c'est au départ, j'étais pas encore coach, j'étais pas encore enseignant. C'est un petit jeune qui m'a demandé, tu peux venir sur ma compétition pour me voir. L'enseignant de ce club-là, il n'était pas là. Du coup, je me suis permis de descendre pour l'accompagner. Et de ce fait-là, j'avais 17 ans, je me suis retrouvé à aller le suivre sur tous les tournois qu'il faisait parce qu'il voulait plus de... Il voulait plus que ça soit son ancien nom qui le coach, et c'était moi. Donc ça s'apprend comme ça. C'est un lien entre l'athlète et le coach.
Apprécies-tu toujours autant d'être coach ?
Ah, j'apprécie. En tant qu'athlète, on vit des émotions sur le combat, quand on gagne, quand on perd. Et je trouve que en tant que coach, on les vit encore plus. Parce qu'on s'attache à nos athlètes, on est là pour eux. Et quand ils sont dans la défaite, faut trouver les mots justes pour les réconforter et puis pour les faire aller de l'avant. Mais quand ils gagnent, c'est une joie d'explosion parce qu'on est content pour eux. Et on ressent encore plus les émotions parce qu'on se dit qu'on s'est donné les moyens, on a fait beaucoup d'efforts. Parce que comme je dis, c'est toujours le coach et l'athlète. Et on a fait énormément d'efforts et quand on réussit, les émotions sont encore plus belles. Donc moi je pense que pour l'instant je suis pas prêt de raccrocher en tant que coach et puis j'irai jusqu'au bout tant que je peux en coach.
Cette fois-ci, c'est bel et bien terminé pour nous. On espère que tout ça vous a plu. Un grand merci à Nicolas d'avoir accepté l'invitation et d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci beaucoup et on espère à très bientôt.
Merci pour ce très beau sujet. On termine l'émission avec le sujet de Nathan, Alexis et Racine consacré au fonctionnement des compétitions de judo.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le judo. Les compétitions de judo sont organisées en fonction du niveau, du poids et de l'âge. Il existe différentes catégories telles que poussin, minime, cadet, les juniors, seniors et vétérans. Les combats durent dans les environs de 3 minutes. Des hippons sont marqués lorsqu'il y a eu une projection au sol et que l'adversaire tombe sur le dos. Un wazari vaut un point et un hippon en vaut 10. Si un hippon est réalisé lors d'un combat, le combat s'arrête.
Les shido sont des pénalités qui sont attribuées lorsque uke ou tori sortent de la surface. Des pénalités sont aussi attribuées quand les bras restent tendus ou que l'on n'attaque pas. Il existe différentes techniques appelées koshiwaza. Cela signifie grande projection de hanche. La première catégorie de technique est celle des koshiwaza. Je peux vous en citer trois. Le déséquilibre, ici le mouvement est statique.
Le second, le contrôle. contact. Tu assures le contact en lâchant le revers du judogi de Uke, l'adversaire, et en glissant ta main droite bien à plat dans son dos, tout en passant sous son bras gauche. Le troisième, le pivot. C'est quand tu dois alors pivoter pour te retrouver dans la même direction que ton partenaire, puis fléchir tes jambes et passer ta hanche à l'extérieur. La première est Ogoshi, un mouvement de bascule efficace pour projeter son adversaire.
La deuxième technique est Harigoshi, un fauchage de grande amplitude. Il s'effectue avec la jambe tendue. Il y a aussi des techniques de jambes appelées Ashiwaza, comme Osotogari, le Izaguruma, ou encore Kosotogari, ou encore le Kosotogari. Les Newaza sont appelés techniques de jambes. Il y a Angezagatame, Yokoshiogatame ou Tateshiogatame. Merci à tous et bonne fin de journée.
Ce dernier sujet à propos des compétitions de judo est terminé.
C'est déjà la fin de notre émission. Merci de nous avoir écoutés. Pour rappel, nous sommes les élèves de 4e 2 du collège Millevoye à Ville. Nous avons souhaité vous présenter les sports que nous pratiquons. Vous pourrez retrouver le podcast de cet atelier radio sur radiocampusamiens.fr.
À bientôt sur les ondes. Au revoir.